Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Eh oui, 6h avant minuit, nous sommes le mardi 3 juin 2025. Vous écoutez la quotidienne d'infos de Syllab. Et à partir de demain, accès impossible à 3 sites pornographiques en France. YouPorn, RedTube et Pornhub. C'est l'éditeur de ces 3 sites, Ailo, qui bloque les accès de rage contre la mise en place d'un contrôle de l'âge des utilisateurs et utilisatrices. Le leader du porno n'est pas très content. La législation française se durcit ces dernières années pour empêcher les mineurs de consulter des contenus pornographiques. Depuis 2020, les éditeurs de sites X doivent s'assurer que leurs visiteurs sont bien majeurs, autrement qu'en se limitant à un clic sur un bouton « Oui, j'ai 18 ans ». Horreur, de quoi mettre en danger la vie privée des consommateurs en imposant des mécanismes de vérification intrusifs, selon Ailo. En réalité, ce n'est pas l'irrespect des droits fondamentaux qui effraie l'industrie, hein, mais bien l'effondrement de son modèle économique basé sur un accès massif et gratuit à son contenu grâce aux revenus publicitaires. Pornhub, c'est quand même 7 millions de visiteurs chaque jour en France. À partir du 6 juin, l'Arcom pourra donc sévir et mettre en demeure les sites ne se conformant pas à la loi, d'où le ouin-ouin. Pour info, selon une enquête de l'IFOP, en 2023, plus d'un jeune garçon sur trois avait déjà surfé sur un site X avant l'âge de 12 ans. Des contenus souvent violents qui deviendront une norme que ces jeunes garçons imposeront à leurs partenaires quelques années plus tard, sans parler de l'incidence négative sur l'image de soi et de son corps pour les jeunes. En 2023, 51% des jeunes garçons de 25 ans déclarent avoir déjà complexé sur la taille de leur pénis en regardant un film porno, et une jeune fille sur trois de moins de 25 ans avait été complexée sur la taille de ses seins ou sur la forme de sa vulve. On ne mentionne même pas la diffusion de revenge porn et de copies illégales sur internet, ni de la violence de l'industrie du X sur les acteurs et actrices, voire le scandale French Bukkake. La fermeture de ces sites, ce n'est peut-être pas le plus grave au final. Tout de suite, le flash de Maeva.
La haine est devenue arme, pugée sur argent après le meurtre samedi d'Hichem Marraoui, un Tunisien de 46 ans, par son voisin. Le parquet national antiterroriste s'est saisi du dossier. Le suspect a posté 2 vidéos au contenu raciste avant et après son passage à l'acte. Il est également soupçonné d'avoir blessé un autre homme de nationalité turque. L'enquête est désormais entre les mains de la DGSI et de la sous-direction antiterroriste. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau parle d'un crime raciste. Le racisme est un poison qui tue, a-t-il déclaré. Traversée sous tension, Gaza en ligne de mire pour Greta Thunberg et Rima Hassan. Partie dimanche dernier de Sicile, Madeleine, un navire humanitaire de la flottille pour la liberté, a quitté les côtes italiennes direction Gaza. À son bord, 12 passagers, dont la militante suédoise du climat et l'eurodéputée insoumise. Un seul cap en vue, acheminer de l'aide et alerter sur l'urgence humanitaire que les ONG qualifient de génocide en cours. C'est une nouvelle tentative après l'échec de mai, marquée par une attaque de drone contre un précédent bateau. Du 3 au 6 juin se tient à Nice le congrès One Ocean Science. Et Nora, quel est son sujet ?
Eh bien, tout simplement, sauver l'océan. Je vais m'appuyer sur un article qu'a écrit la militante écologiste Claire Nouvian il y a quelques jours. D'abord, elle rappelle que l'océan est à la fois notre poumon et notre thermostat planétaire. C'est-à-dire qu'il capte près de 30% du CO2 émis et absorbe plus de 90% de nos excédents de chaleur. Ça, c'est quand ça allait encore à peu près bien. Sauf qu'aujourd'hui, la conjoncture est bien différente. Les fonctions de régulation et de stabilisation prises en charge par l'océan, donc, sont mises en péril par nos activités humaines, plus destructrices que protectrices. Alors, pour tenter d'inverser la trajectoire vers laquelle on se dirige, des décisions politiques fortes doivent être prises. Et ces 3 prochains jours, c'est de ça dont il est question. Au programme des tables rondes, réunissant des représentantes et représentants du monde entier, sera entre autres discuter l'amélioration des capacités de prévision océanique et la lutte contre la prolifération des algues nuisibles. Pour Claire Nouvian, le principal enjeu concerne la pêche industrielle, puisqu'elle inflige d'immenses dégâts à l'océan et aux animaux marins. Alors que la masse totale des humains sur la Terre représente environ 0,4 gigatonnes, nous sommes responsables de la disparition d'environ 2,7 gigatonnes de vie dans les océans. Alors elle, comme d'autres, lutte pour des aires marines protégées, des vraies. Interdire la pêche industrielle, créer des zones strictes sans pêche, protéger les animaux marins, Les enjeux sont cruciaux, les discussions importantes, autant que les accords qui pourront être conclus. Ce congrès arrive seulement quelques semaines après que Donald Trump ait signé un décret autorisant l'exploitation minière des fonds marins. Une décision à rebours des accords internationaux où les risques de modifier les fondements biologiques, biochimiques et géochimiques de la vie dans les océans apparaissent autant inévitables qu'irréversibles. François Chartier, chargé de campagne Océan et Pétrole à Greenpeace, espère qu'un maximum de pays s'y opposeront de manière ferme et coordonnée. Suivra dès la fin de ce congrès la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan. Ce sera la première fois que les deux événements seront adossés. Dans un contexte de plus en plus complotiste, l'urgence est brandie. Reste maintenant que nos dirigeantes et dirigeants soient à la hauteur des vies humaines comme animales en jeu.
Mais où est donc passée la statue de cire de Macron ? Hier, des militants de Greenpeace ont réussi un coup de théâtre. Ils ont volé la statue de cire d'Emmanuel Macron au musée Grévin, d'une valeur de 40 000 euros. Ils sont entrés comme des visiteurs lambda, puis se sont changés en douce. Déguisés en employés, ils ont quitté les lieux avec le président empaqueté sous une couverture. Direction l'ambassade de Russie à Paris, où la statue a servi à une action symbolique. L'objectif, dénoncer le double jeu du président entre soutien affiché à l'Ukraine et tolérance envers les entreprises françaises encore actives en Russie. Deux médecins rennais, la docteure Catherine Le Scolan-Quéret et le docteur Jérôme Blanchot, ont lancé une pétition pour que la France, et en particulier Catherine Vautrin, actuelle ministre de la Santé et médecin de formation, intervienne auprès des autorités israéliennes afin de laisser des médecins humanitaires internationaux entrer dans Gaza. Et Nora a pu s'entretenir avec l'une d'entre elles.
On s'est mobilisés tous les deux. Moi, j'ai écrit le texte de la pétition et lui, il l'a mise en ligne. Là, ça monte à toute vitesse. On a 16 000 signatures. Je crois, hier soir, on avait 16 000 signatures. Et dernièrement, ça montait très, très vite. Les raisons de cette pétition, c'est le blocage de l'aide humanitaire que tout le monde connaît. Depuis mars dernier, moi, j'ai fait une mission médicale de 2 semaines en novembre et décembre dernier, 2024. À l'époque, déjà, il y avait déjà des blocages sans raison valable sur une mission médicale. Il y avait toujours des médecins de refuser, on ne savait pas pourquoi. La veille, toujours, c'est toujours la veille qu'on a la réponse d'Israël. Ça s'est aggravé au fil des mois et les conditions d'entrée sont encore plus sévères qu'il y a 6 mois. Moi, il y a 6 mois, on m'a enlevé de mes valises tous les médicaments que j'avais pour soigner les gens à Gaza. Et là, actuellement, ce que j'entends de mon ONG, du président de Palmed, c'est que les rares médecins qui sont autorisés à entrer dans Gaza peuvent entrer avec une seule boîte de paracétamol à usage personnel. Comment voulez-vous qu'on aille soigner les gens sous les bombes avec une boîte de paracétamol ? Je suis toujours restée en lien quotidiennement avec mon collègue médecin gazaoui qui travaille aux urgences avec moi, que j'ai tous les jours au téléphone, qui soigne depuis des mois et des mois tous les jours sous les bombes, qui est épuisé, il n'a plus rien à manger. Aucun Gazaoui n'a plus rien à manger. Tous les jours, il voit des enfants de 3-4 ans, sans membres, sans bras, sans jambes, mourir par terre parce qu'il n'y a plus de lit, parce que les services de soins intensifs sont saturés. Déjà, quand j'y étais, un chirurgien Gazaoui de chirurgie vasculaire nous avait dit qu'ils utilisaient parfois le même fil de suture pour plusieurs patients. Bon, il n'y a pas de mots pour décrire la situation actuelle. Il n'y a pas de mots. J'ai espoir, moi je reste positive et il y a urgence et toutes les actions se rejoignent en fait. La flottille, l'action de la flottille rejoint l'action de la marche vers Rafah, rejoint la pétition que Jérôme et moi on a rédigée pour laisser entrer l'aide humanitaire à Gaza. Toutes les actions se rejoignent, donc on a besoin de tout le monde. Et je ne peux plus supporter cette phrase, mais oui c'est triste mais je ne peux rien faire. On peut tous faire quelque chose pour arrêter ce génocide.
Mercato rouge et noir, Bamba rempile, il revient et il reste. Rayan Bamba prolonge l'aventure au Stade Rennais jusqu'en 2027. Formé au club, le jeune latéral de 20 ans revient de son prêt très réussi à Concarneau, où il a été élu meilleur latéral droit du National, un but, 4 passes décisives et une bonne dose de promesses dans les jambes. Avec le départ annoncé de Lorenz Assignon, Bamba devrait vite intégrer la rotation d'Habib Baye. À lui maintenant de se faire une place. Et si on redonnait la parole à la nature et aux femmes ? C'est le pari du projet Gaïa, une exposition photo signée Clara Georges d'Issoudril, son idée, fusionner écologie et féminisme, à travers 10 portraits puissants, 10 femmes, 10 histoires où la nature reprend la parole. Des images pour dire l'oubli, mais surtout la force. Ici, la photo devient manifeste. Le projet Gaïa, c'est une galerie à ciel ouvert pour celles qu'on ne regarde pas assez. Rendez-vous au 4 bis du 3 juin au 1er juillet. Et enfin, prix Sirène des étudiants 2026, les finalistes sont là. C'est tombé hier, 5 titres, 5 univers et un seul mot d'ordre, l'imaginaire à l'honneur. En lice cette année, Nout de Luvan, T3M d'Héloïse Brésilion, Donjon Crawler de CM Dineman, Amormina B de Frédéric Roussel et enfin Soma de Florian Soulas, un cru 2026 qui mêle poésie, format court et expérimentation ludique. Les étudiants et étudiantes voteront dès la rentrée via un formulaire en ligne en attendant à vos bouquins cet été.
C'est la fin de ce flash. Merci Maëva, on passe à l'interview.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
Robe longue à fleurs, Magali Provost est secrétaire et membre fondatrice de l'association Pengal Alayam. Et puis t-shirt Nirvana sur le dos, on adore. Cédric Rouault est bénévole à l'association. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez nous parler de Fest India qui a lieu les 27 et 28 juin prochains. Mais pour parler de Fest India, il faut parler de l'association Pengal Alayam. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née cette association et quel est son but ?
L'association est née officiellement il y a bientôt 3 ans. Je suis la pilote du projet. Cette association, ce projet a germé dans ma tête il y a une petite dizaine d'années maintenant. Je suis thérapeute en médecine douce en Ille-et-Vilaine depuis 25 ans. Et il y a une petite dizaine d'années, lorsque cette jeune femme s'est faite agresser à Delhi et laissée pour morte, ça fait tilt. Voilà. J'ai pris le temps de mûrir le projet et donc on s'est lancé il y a à peu près 3 ans. Donc nous sommes 5 membres fondateurs. L'idée de Pengal, c'est d'aller en Inde, s'occuper des femmes, des jeunes filles et des enfants victimes de violences et de viols. Auprès d'ONG indiennes qui prennent en charge en fait ces populations, qui les prennent en charge sur un plan matériel, qui les hébergent, qui les éduquent, qui les nourrissent. Mais tout le plan psycho-affectif, c'est quelque chose qui est compliqué à prendre en charge en Inde. Donc je me déplace 2 à 3 fois par an sur site, donc sur Calcutta et Bodh Gaya dans le Bihar, pour prendre en charge en fait ces populations.
Oui, parce qu'il faut rappeler le contexte. Sur votre site, il y a quelques chiffres. Donc selon les Nations Unies, forte augmentation des crimes violents contre les femmes en Inde, en particulier les viols et les enlèvements, vous l'avez dit. C'est une augmentation de 902% depuis les années 70 jusqu'aux années 2012 à peu près. On peut rappeler aussi plus de 31 000 viols enregistrés partout dans le pays en 2021. Donc c'est assez violent. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces violences envers les femmes dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe en fait?
Depuis de nombreuses années, il y a une sous-population des jeunes filles et des femmes en Inde. Nous sommes encore dans une société patriarcat. Et il faut savoir qu'en Inde, marier une fille, ça coûte de l'argent. Il faut prévoir une dot. Mmh. Donc les petites filles qui ont la chance de vivre, puisqu'il faut savoir que certaines ne survivent pas, elles sont tuées à la naissance. Toute leur vie, en fait, les parents vont préparer une dot, que ce soit sur de la vaisselle, des tissus, de l'argent, parce que pour pouvoir marier leur fille, ils doivent la marier en donnant effectivement une dot qui est relativement très très importante. Beaucoup de familles n'ont pas les moyens et donc font le choix effectivement de ne pas garder les petites filles. Et aujourd'hui, on se retrouve à, je crois que la quote-part doit être à peu près d'une femme pour 9 hommes en Inde. Mmh. Donc certains hommes savent que de toute façon, ils ne se marieront jamais.
Comment est-ce que concrètement, on peut les aider sur place? Vous avez parlé de prise en charge psycho-affective. Que fait l'association concrètement sur
concrètement,
place?
Alors, concrètement, lorsque je me rends en Inde, donc, je vais au sein des ONG, en fait. Nous travaillons avec 3 ONG. Et les jeunes femmes, les jeunes filles qui veulent un soutien psycho-affectif, en fait, je me rends sur des demi-journées, en fait. Les ONG, en général, me mettent à disposition l'infirmerie, où je peux les recevoir autant qu'elles le veulent. Mmh.
Vous distribuez aussi, je crois, des équipements pour les travailleuses, les jeunes travailleuses.
C'est ça. Lorsque nous nous sommes rendus la première fois sur site et que nous avons visité la plupart de ces ONG, ont besoin de s'autofinancer également. Et donc, il y a des travailleuses sur place. La plupart travaillent les tissus, en fait, impriment des saris, des tissus. Et on s'est rendu compte, lorsqu'on a visité, qu'une fois qu'elles ont imprimé, donc déjà, elles n'ont aucune protection pour travailler les encres. Et lorsqu'elles traitent les tissus après, elles n'ont aucune protection au niveau des pieds non plus. Donc, elles sont les pieds dans l'eau et les produits chimiques. Donc, suite à ça, nous avons fait une demande donc, auprès de la société Soréal de Janzé. Qui nous a gracieusement fourni des EPI, donc des équipements de protection individuelle que nous avons emmenés lors du second voyage, donc à savoir des gants, des bottes et des paires de lunettes. Voilà, et Jean-Manuel, le président, a expliqué en fait l'intérêt à ces femmes de se protéger aussi de ces produits-là.
Et pour les plus jeunes, vous intervenez aussi dans les écoles, je crois.
Alors, la plupart de ces ONG indiennes, en fait, éduquent les enfants. Elles ont des écoles, en fait, intégrées.
Ok. D'accord. Et j'ai lu plus récemment quelque chose à propos de la création d'une clinique mobile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui. Nous intervenons donc au niveau de Bodh-Gaya, donc dans le Bihar. Le Bihar étant la région la plus pauvre en Inde, il faut le savoir, c'est le vivier pour les trafiquants. C'est là qu'ils vont, dans le meilleur des cas, acheter, dans le pire des cas, enlever les petites filles et les jeunes filles pour les envoyer dans les bordels aux quatre coins du monde. Et donc, nous travaillons avec la Mumbiji Trust, qui est une ONG qui a 25 ans. C'est Mumbiji, une Française, qui l'a créée il y a 25 ans, qui n'a jamais quitté l'Inde, en fait. Et qui, depuis, crée des écoles dans les villages de Dalits, donc dit des intouchables, pour justement changer l'histoire des filles. Donc, elle va de maison en maison expliquer aux parents que, plutôt que de vendre leurs filles pour quelques billets, il vaut mieux qu'ils lui confient les enfants. Et qu'elle va les éduquer et qu'après, avec un métier, elle pourra les aider plus facilement et leur donner de l'argent. Et la Mumbiji Trust donc, prend en charge l'intégralité pour les enfants. Ils ont un médecin. Et donc, ce médecin, toutes les semaines, se rend dans un village reculé où aucun médecin ne se déplace. Et donc, en fait, il y a une clinique mobile qui se déplace de village en village. Donc, on a déjà fait deux inaugurations. Donc, c'est Pengal Alayam qui, aujourd'hui, chapeaute, en fait, les cliniques mobiles et financièrement soutient en fait l'ouverture. Et donc ce médecin se rend en fait toutes les semaines et les habitants peuvent consulter gratuitement le médecin et recevoir des médicaments, de l'homéopathie en l'occurrence beaucoup, gratuitement également.
Et je me demandais, est-ce qu'il y a une volonté du gouvernement indien de faire quelque chose face à ces violences, face à cette situation ? Je précise que depuis 2022, c'est une femme qui est présidente du pays, Droupadi Murmu, même si c'est Narendra Modi, le Premier ministre, qui a le plus de pouvoir. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont impulsées par cette femme ? Est-ce que le gouvernement essaye d'agir en Inde ?
Alors c'est très compliqué parce qu'en fait, comme dans beaucoup de situations, il y a un double discours, c'est-à-dire qu'effectivement ils vont nous dire qu'il y a une volonté, qu'il n'y a plus de caste, voilà. Sauf que ça n'est absolument pas la réalité sur le terrain. Et ils vont nous dire qu'ils veulent arrêter ces violences, mais en même temps, si on prend la question par exemple de la prostitution, des femmes qui sont prostituées de force, nous travaillons notamment avec la APNEAP. Donc avec Ruchira Gupta, qui est la fondatrice de la APNEAP, une activiste qui a été menacée de mort et qui est interdite de séjour, par exemple, à Calcutta, parce qu'elle veut aider les femmes qui le souhaitent à sortir de la rue, et c'est très, très mal vu, parce qu'au final, le gouvernement, ça l'arrange bien, finalement, qu'il y ait des bordels un peu partout.
Quels sont vos financements pour mettre en place tous ces leviers d'action ? Est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent vous aider d'une manière ou d'une autre ?
Oui, on espère, parce que pour l'instant, effectivement, on fonctionne beaucoup avec de l'autofinancement. Nous avons monté les dossiers, nous avons été reconnus d'intérêt général par le service des impôts, donc en début d'année. Donc depuis cette année, les gens peuvent faire des dons qui sont défiscalisés, les entreprises également. Voilà. Et puis, nous organisons une ou deux fois dans l'année des manifestations à caractère culturel qui nous permettent de faire des levées de fonds. Et la prochaine qui arrive donc, est le 28 juin, donc elle s'appelle Fest India. Voilà, nous avons souhaité que ce soit aussi une journée, on parle d'un sujet qui est quand même grave, et pour autant, on a envie quand même, parce que quand on va en Inde, ce qui surprend, c'est que malgré la misère, ils ont tous le sourire. Voilà, et on a envie que ça reste une journée festive, où les gens vont avoir plaisir aussi à venir découvrir l'Inde autrement qu'à travers tous ces traumas, et en ce moment, toutes ces guerres. mais aussi dans la joie et dans la bonne humeur et tout ce qu'il y a autour de la culture indienne.
Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer pendant ces deux jours? Il y a déjà, on peut peut-être parler vraiment de la culture indienne, donc plein d'ateliers sur
plein d'ateliers,
plein de sujets.
Voilà, donc on ouvre en fait avec un ciné-débat le vendredi soir au cinéma Le Stella, où nous projetterons le film All We Imagine as Light, donc qui a été primé à Cannes en 2024, qui fait un portrait très intime finalement de trois femmes. Voilà, qui finalement ont envie de se rebeller aussi contre la condition des femmes. Donc un petit ciné-débat le vendredi soir. Et le samedi, nous vous accueillerons en fait à Janzé sur le site du Gentiag et la ferme de Live à partir de 14h. Donc avec effectivement plein d'ateliers pour découvrir le yoga, la danse, la cuisine, la ayurveda, les massages, les tatouages au henné, enfin voilà, tout ce qu'il y a autour de la culture indienne. Et lors de cette journée, nous proposons également donc une table ronde à 15h.
Avec deux invités de marque.
Trois invités. Donc Ruchira Gupta, donc, qui est cette journaliste indo-américaine, fondatrice de la APNEAP, qui est une activiste qui travaille avec l'ONU et des gouvernements un peu partout sur la planète pour faire voter des lois anti-trafic. Donc elle fera la route des États-Unis. Nous aurons également Lata Bajoria, qui est une femme indienne qui fera la route de Calcutta, qui à son niveau à Calcutta se bat pour faire bouger les lignes aussi, parce qu'il faut savoir que les femmes en Inde qui sont veuves ou divorcées sont rejetées de la société également. Et donc elle a fait partie de ces femmes-là, et donc aujourd'hui elle œuvre à Calcutta justement pour permettre à toutes ces femmes d'être intégrées, et elle les fait notamment travailler dans son entreprise. Donc elle fera la route, et nous aurons également Fardina Samadi, qui est cette femme médecin afghane réfugiée à Rennes depuis 2 ans, qui est intervenue à l'Assemblée, qui sera présente également pour la table ronde. Voilà, et le thème sera effectivement les violences faites aux femmes en Inde, mais finalement pas que.
Et puis de la musique aussi, avec un concert.
C'est ça, donc il y aura une introduction à la musique indienne, donc dans l'après-midi déjà, avec Tristan Ouvray, qui est un joueur de tabla, et, excusez-moi pour la prononciation, Shukdev, je vais m'arrêter là, qui est un violoniste indien. Donc ils viendront l'après-midi faire une introduction à la musique traditionnelle du Nord, et le soir, effectivement, donc il y a un dîner qui est prévu à partir de 19h, un dîner indien, mais uniquement sur réservation, parce qu'on n'a pas une quantité de place énorme. Et à partir de 20h30, un spectacle. Donc une heure de danse, danse traditionnelle et danse Bollywood avec l'association Mirabai. À partir de 21h30, donc une heure de concert donc, traditionnel d'Inde du Nord avec Shukdev et Tristan. Et ensuite, il y a eu un concert d'une demi-heure, trois quarts d'heure de musique de chansons Bollywood et pop afghane.
On aura fait le tour là, de la culture indienne. Non,
je pense.
Pas en 2 jours, il y a tellement de trucs à découvrir.
C'est ça.
Et
J'oubliais. Oui. Nous proposerons aussi aux gens, pour le coup, un petit marché d'artisanat de 14h. Et on va pousser sur un marché nocturne jusqu'à 23h. Donc les gens pourront venir façon guinguette indienne, un peu plus léger, boire un verre ou faire un tour sur les stands d'artisanat.
Est-ce qu'il faut s'inscrire, prendre une place?
Alors, pour le dîner, oui, ouais. Parce qu'en fait, on a un nombre réduit. Hein, c'est un Indien qui nous a proposé donc, de confectionner le repas, donc un vrai repas indien. Donc effectivement, on se limite à 100 repas. Après, pour les ateliers, c'est conseillé aussi, parce que le nombre de places pour la danse traditionnelle est limité, pour la danse Bollywood, les cours de yoga aussi. Voilà, surtout qu'on les a mis à des prix. L'idée, c'est que vraiment les gens viennent découvrir. Donc effectivement, c'est quand même une bonne idée de réserver.
Est-ce que vous avez des projets, des choses à annoncer, des choses à venir pour l'association?
Donc la prochaine mission sera en octobre. Nous travaillons avec deux des ONG éventuellement à la création d'un poulailler.
Ok.
Voilà, donc ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas du tout, parce que créer un poulailler dans un village pauvre où il y a une des écoles qui a été créée, ça permettra aux enfants d'avoir à manger, ça permettra aux villageois d'avoir un travail et d'avoir une qualité de vie un peu plus autosuffisante.
Et peut-être pour finir, Cédric, on n'a pas encore entendu le son de votre voix. Est-ce que vous avez un message à faire passer, quelque chose à nous dire?
Très sincèrement, il ne faut pas hésiter à s'engager. Aujourd'hui, le monde associatif est une de nos sociabilités qui reste importante dans notre société. Et bah, voilà, moi, par exemple, juste à la base, j'étais juste un simple ami de Magali. Et ça venait juste en soutien. Et finalement, j'ai pu trouver ma place au sein de l'association. Donc voilà, même si vous êtes jeune, engagez-vous.
Il y a moyen d'adhérer, de s'engager en tant que bénévole dans l'asso ?
Oui.
Il y a des choses à faire ?
Oui. Dans les moyens de nous soutenir, il y a aussi simplement les adhésions.
Mm-hmm.
Une adhésion, ça ne veut pas dire qu'on va être obligé de s'engager, de venir faire du bénévolat. Une adhésion, c'est comme un billet dans l'urne, ça veut dire je soutiens le projet, et c'est important, parce qu'il faut savoir que quand on fait des demandes de subventions, avant de s'intéresser à ce qu'on va faire de bien, on nous demande d'abord combien on a d'adhérents. Voilà. Ouais. Et c'est en fonction de ça qu'on va nous donner des subventions plus ou moins importantes. Donc déjà, adhérer à l'association, c'est nous soutenir comme ça. Et puis ça nous permet aussi, c'est de nous suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, parce que quand on diffuse ou qu'on communique, ça permet aussi d'avoir des gens qui recommuniquent derrière et du coup de faire connaître tous nos projets, tout ce qu'on fait. Et puis effectivement, le bénévolat. Alors nous, notre association, c'est d'abord une grande famille. Voilà, parce que dans humanitaire, il y a humain. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. Donc les gens, voilà, ils sont bénévoles sur les manifestations, sur ce qu'ils ont envie. On ne va pas non plus aller les presser dans leur emploi du temps.
Bien sûr. Eh bien, Festindia, c'est les 27 et 28 juin à Jonzé. Je pense qu'il y aura quelques places aussi pour le soir à gagner bientôt sur Syllab. On vous donne tous les détails très vite. Merci à tous les deux d'être venus sur notre antenne.
Merci à vous.
Merci à vous.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Romain a fini son stage la semaine dernière, mais il est de retour pour une dernière chronique, c'est Un jour un style.
Et oui, c'est ma dernière chronique pour la saison. Dans Un jour un style, j'ai présenté des genres de musique pas hyper connus, mais pour cette dernière, on en voit tout valser. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois projets d'artistes qui, eux, en ont rien à faire des genres. Ils et elles en prennent plein et les mélangent pour créer quelque chose de propre à eux et elles. C'est des projets que j'adore, les choix sont complètement arbitraires, c'est parti. Premier projet, c'est Sometimes I Might Be Introvert de Little Sims, une rappeuse londonienne. Sur cet album, l'artiste mélange rap, néo-soul, jazz et des influences orchestrales. C'est un album qui fait dans le grandiose en gros. Je vous mets quelques extraits de ce projet pour vous montrer la palette de l'artiste sur l'album.
Women got the melanin dripping. Nella Wendy, O-N, city girl living in the back, looking like fire, chili pepper. You rub a girl tougher than imperial leather. I think I need a standing ovation. Over 10 years in a game, I'm impatient. God has always told me to be myself. Let go and free yourself. Tell the truth and shame Satan. Now I gotta pave the way for the next generation that's coming up under me, and I love to see it.
On enchaîne parce que sinon la chronique va durer 15 minutes. On part en Inde avec le groupe Peter Cat Recording Co. En 2019, ils sortent l'album Bismillah. Beaucoup de choses à dire sur ce projet, mais on peut le résumer en quelques mots, comme c'est trop génial par exemple. Sur cet album, on mélange le jazz, la pop, la funk. Sur tout ça, vous ajoutez la voix de crooner du chanteur Surya Kansoni. On dénonce le capitalisme et les injustices sociales et on obtient cet incroyable ovni musical.
When I see the sun, Lord, yes, tell a lie. So you pick me up and help me stay alive. Ooh, baby, tie me down, I am dangling on. Past the storm.
Allez, dernier projet déjà, c'est le groupe Magdalena Bay et l'album Imaginal Disc. C'est sorti l'année dernière et je crois qu'il n'y a pas une seule journée où j'écoute pas un morceau de ce projet. On pourrait résumer ça à l'électropop, mais c'est bien plus que ça. Il et elle s'inspirent beaucoup de l'esthétique un peu kitsch du début des années 2000. Il y a un côté rock, parfois disco à d'autres moments. Il et elle ont vraiment réussi à créer une esthétique hyper cohérente qui leur est propre. La voix de la chanteuse Mika est absolument fabuleuse. Je vous laisse avec des extraits.
Oh my God, 22 more minutes, oh, so high.
Merci Romain, peut-être rendez-vous à la saison prochaine, qui sait, pour revenir avec ta chronique Un jour un style. Je vais vous dire un dernier petit truc au creux de l'oreille avant de se quitter.
Ah, le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllabe, la radio sauvage.
Ça fait quelques jours que notre répondeur est vide, on tire tous la tronche. Tous et toutes, vraiment. Aidez-nous à retrouver le sourire, laissez-nous un message vocal, je vous redonne le numéro. C'est le 02 30 96 25 35. Dites-nous tout ce que vous avez sur le cœur, vraiment. Ce que vous avez pensé de nos super invités, ce que vous avez pensé de nos reportages. Je sais pas, il y a peut-être une idée de sujet qui vous vient à l'esprit. Bah allez-y. 02 30 96 25 35. Merci Cesse pour la technique et à demain dans 6h avant minuit.
Si la la. La radio sauvage.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.